découvert à notre époque l'incomplétude de ces calculs. Mais entre l'incomplétude qui fait parler beaucoup et couler beaucoup d'encre et la logique de l'Antiquité jusqu'à nous, il y a quelque chose que personne n'a vu, c'est que c'était modal. Et ça, si Lacan l'a vu, et il le dit très très bien. Il le dit dans Les Noms du Père. Hein, il dit Aristote dérape. Et je peux vous montrer où Aristote dérape, dit Lacan, mais il ne le fait pas. Manque de peau. Je ne sais pas. Alors, si vous trouvez un endroit où Lacan l'a expliqué, il dit c'est dans De l'interprétation. Hein? Donc, moi, je vous propose de lire Porechki pour voir la méthode de Porechki, qui est déjà une introduction à la topologie des ronds, des trous. Ça va nous conduire jusqu'au nœud. Et De l'interprétation de Aristote, c'est 14, il y a 14 paragraphes. Hein? Et Lacan nous dit dans De l'interprétation, et c'est chez Vrin, c'est publié ensemble, catégorie et De l'interprétation. Donc De l'interprétation, il nous dit Aristote dérape. Ça veut dire que Aristote, il ne s'est pas rendu compte que c'était modal. Hein? Je vais vous dire, Aristote confond justement la fonction phallique à le phi, c'est-à-dire le phi, c'est le nécessaire. C'est ce qu'en logique on écrit comme ça, vous voyez, on écrit ça comme ça. Ceci c'est la fonction phallique écrite en logique. C'est un caractère qui est un reste de Frege. Par exemple, en logique, vous avez ça, P implique P. C'est une thèse logique. Ça veut dire c'est nécessairement vrai. Ça, vous pouvez le dire en public parce que c'est nécessairement vrai. Donc, vous pouvez l'écrire en mathématiques. En mathématiques, on écrit que des choses vraies. Ça, c'est pour ça que moi, je finis par faire une psychanalyse, parce que je ne comprenais pas pourquoi. Parce que, voilà, les profs de maths, quand ils sont en classe, devant vous, comme moi, là, maintenant, sur une estrade, avec un tableau, ça, ils n'ont le droit d'écrire que des choses vraies. Hein? Parce qu'ils le font intimement pour eux. C'est ça, faire des mathématiques. Et quand on fait un cours de maths, on doit écrire des choses vraies. Bon. Et moi, j'ai toujours vu qu'on apprenait les mathématiques, qu'on faisait des problèmes de mathématiques, des exercices de mathématiques, en écrivant plein de conneries. Mais ça, il ne faut pas dire. Alors, on a inventé un truc, et dire, tiens, on a fait cours et travaux dirigés. Donc, on peut dire un peu plus de conneries. Bon. Mais le problème, c'est qu'avec Souris, nous, on était sidérés, parce qu'on a toujours vu qu'on apprend, exactement comme le fait Freud comme analysant, on apprend bien que quand on écrit des trucs, on se bourre, on fait des conneries, on y va, on raye, on rature, on recommence, on se corrige. Ah voilà, voilà. Les vrais analysants, les grands analysants, sont ceux qui n'ont pas froid aux yeux, voyez-vous, puis qui disent à un moment donné, oh, bon, excusez-moi, là c'est complètement con ce que je vous ai expliqué. Et hop, alors vous voyez, c'est pas des maîtres, c'est pas des leaders, c'est pas des... Ça se fait pas, ça doit pas, c'est pas des... C'est, ça se fait pas en politique, ça. Et justement, vous voyez, le drame, regardez, le drame des démagogues, c'est quoi? C'est que, vous voyez, les gens, genre Le Pen, Sarkozy, là, les mecs qui racontent n'importe quoi, qui balayent très large, ils passent par la littérature et ils prétendent faire déborder la littérature de ce côté-là. Voyez-vous? Ça, c'est la démagogie. La littérature en politique, c'est dégueulasse. On peut le faire avec le canard enchaîné, mais il faut le faire dans des conditions très précises. C'est très, très dangereux. Le canard enchaîné, c'est des saintes. Mais ils déconnent avec le langage, les dessins, mais ils ont des documents hein, derrière tout ça. C'est une vieille tradition française de la Troisième République. Hein. Ils sont protégés parce qu'il y a quand même la censure, la justice qui veille. Hein. Ils ne peuvent pas. Là, récemment, ils ont été encore alpagués. Bon. Et puis, vous avez l'autre bande de crapules qui s'appelle les technocrates. Alors, les technocrates sont ceux qui sont là. Et où ils font déborder les mathématiques sur le domaine politique, surtout. Le marxisme, malheureusement, Marx, qui avait un petit retard à l'allumage en matière de science, il a cru que pour introduire de la rigueur en politique, il fallait passer par le chiffre. Alors, il a fait une théorie économique. Il croyait encore, lui aussi, à la science kantienne, quoi. Il croyait qu'il fallait observer les choses, les mesurer, faire de la géométrie métrique. Il n'a pas découvert la topologie, Marx. Freud, heureusement, il n'a pas fait de maths. Au moins, on ne sait pas. Il a découvert la logique, quand même, Freud. Hein, quand il a appris par Brentano qu'il y avait une nouvelle négation, qu'on parlait des fonctions propositionnelles, des canteurs, tout de suite, il a pris ça pour l'écrire, voyez-vous, Freud, pour s'en servir. C'est la négation, son texte sur la négation. Mais Marx, lui, il a cru que pour introduire des mathématiques et de la rigueur en politique, il fallait trouver un lieu où il y a des trucs à mesurer. Alors, comme le dit Georges Bataille, voilà, le Capital, c'est vachement intéressant, c'est vrai, bien. En plus, c'est vachement bien écrit, c'est pour ça qu'on le lira encore longtemps, malgré les crétins. Mais par contre, ce qui est emmerdant, comme dit Bataille, c'est que dans le Capital, on apprend combien de mètres de tissu, de flanelle il faut pour faire un pantalon, qu'est-ce que ça coûte, combien d'heures de travail ça demande au tailleur, tout ça. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe quand le mec qui porte le pantalon l'enlève. C'est ça, comme dit Bataille. Donc, vous voyez, ça, c'est pas dans le Capital. Dans le Capital, il n'y a pas le désir, vous n'avez pas. Hein, les jeunes Russes, ils s'en sont aperçus, les Chinois aussi. Hein, vous savez ça. Les jeunes Russes se sont dit, quand même, nous, ce qui nous intéresse, c'est les 45 tours, les blue jeans, c'est des conneries. Mais quand même, qu'est-ce que ça fait le glacis de l'économie, tout calculé, sans désir? Le truc qui devient paranoïaque. Rejet de la lecture, rejet des modalités. On écrit tout, on fait un système thermodynamique isolé, et tout ce qui se passe à l'intérieur, c'est pas Dieu qui le fait rentrer, donc la plus-value. Hein, s'il y a des gens qui ont plein de pognon, qui foutent rien, il y en a d'autres qui bossent comme des cons et qui ont rien, c'est que, grâce à un jeu d'écriture, on arrive à faire vase communicant, passer toute la valeur de ceux qui produisent à ceux qui font rien. Bon. Ça s'appelle le Capital. Alors, qu'est-ce que vous faites avec ça? Vous apercevez simplement que dans la politique, vous avez toute une bande d'escrocs qui maintenant, ils font des mathématiques. Hein. D'abord, la finance joue un rôle énormément important. Hein. Et en plus, maintenant, vous avez des gens qui font de la technocratie, c'est-à-dire que ce qu'on appelle des têtes d'œufs, les mecs, ils ont des lunettes, comme moi, et puis, mais ils sont chauves. Et les types, ils vous racontent qu'ils vont gouverner le monde, ils vont tout organiser avec des mathématiques. Vous voyez, c'est pour ça que les mathématiques sont mal vues. Dans la psychanalyse, en particulier, on ne peut pas en entendre parler. Là, ça revient un peu le dernier Lacan, parce que la famille avait réussi à faire obstacle en disant que Lacan était devenu cynique, fou, je vous l'ai déjà dit. Je vous ai déjà raconté ça, alors je ne vais pas le raconter, mais. Donc, il ne fallait pas faire de mathématiques, ce qui n'est pas bien, parce que c'était des machines. Confondre la psychose paranoïaque avec les mathématiques. Hein. Exemple, le livre Le délire psychotique, l'inconscient à ciel ouvert, et puis l'autre, c'est Liberté, ça s'appelle comment le Liberté psychotique de Madame Colette. Comment il a intitulé ça? C'est la traduction d'un livre d'un Argentin. Ça m'a frappé. Bon, enfin. Le bouquin s'appelle. Ça s'appelle Rigueur, voilà. Rigueur et liberté psychotique. Cantor, Turing. Ça continue, Turing. On continue à l'accabler. Cantor, Turing et.
Il a un nom italien.
Cantor, Turing, et le troisième, c'est Gödel, parce qu'il y a aussi le fils Noguès qui a fait un bouquin sur Noguès, sur Gödel délirant. Bon. Donc, les mathématiciens, ils n'ont pas le droit d'aller dans une clinique privée pour jouer avec leur merde comme Marie Barnes, de l'époque de la psychiatrie anglaise. On les accuse d'être des psychotiques, s'ils ont des petits troubles, vous savez, du genre, ils font chier leur femme, ou tout ça, c'est la vie de ménage, hein. Donc c'est quand même extraordinaire cette histoire. C'est que Lacan, il a fait la psychanalyse, la même que Freud, pour critiquer Freud, mais il le redit en parole et il rajoute plus d'écriture. Et pourquoi? Parce que la psychanalyse, c'est s'apercevoir qu'on ne sait pas lire, qu'on ne sait pas bien écrire et qu'on ne sait pas bien parler. Et qu'on ne parle pas bien, et qu'on n'écoute pas bien, et qu'on ne lit pas bien, et qu'on n'écrit pas bien. Voilà. Et que même si on a le dessus des 1% de l'iceberg, n'est-ce pas, de la littérature, tout ce qu'on a écrit depuis des siècles, nous, tout ce qu'on nous reste comme trace, c'est très peu, n'est-ce pas? Bon, il y a des choses formidables. Mais n'empêche que les gens qui font ces choses formidables, ce n'est pas des gens qui sont adaptés. C'est pas vrai. Ils ne sont pas adaptés. Et lisez Shakespeare et lisez aussi les sonnets de Shakespeare, parce que Shakespeare, il en bave des ronds de chapeau. Hein, à cause de ce qu'il aime. Eh ben oui, tout le monde a des soucis comme ça. Et donc, le problème, c'est que Freud, il s'est aperçu que c'était lié justement au fait qu'on avait beaucoup de mal à apprendre à lire. Ça s'appelle le narcissisme. Et c'est pas, comme on croit bêtement, un vilain défaut, le narcissisme. C'est le fait de ne pas réussir à lire qui est un vilain défaut. Ça s'appelle psychose. C'est-à-dire, ce qu'il appelait psychose narcissique, névrose narcissique, Freud, en 1916, hein, c'est pas la névrose narcissique, c'est une névrose, justement, du ratage du narcissisme. Hein. Le narcissisme, ce serait réussir à composer la puissance phallique, la dimension mystérieuse du phallus, de la vérité, de ce phi, voyez-vous, avec l'image du corps. Hein. Quand il y a des éléments en pointe, quand cette dimension est en place, là, comme ça, vous avez un corps, et puis son image dans le miroir, c'est différent. Il y a une dimension qui est opposée. Hein? Et quand c'est plat, s'il n'y a pas cette dimension de la parole, quand c'est plat, vous voyez, c'est superposable, c'est identique. Quand il y a cette dimension de la parole, ça fait quoi? Ça produit une différence, ça produit une opposition. Il y a deux. Mais cette opposition, ma main droite et ma main gauche sont opposées parce qu'elles sont épaisses, parce qu'elles ont deux faces distinctes. Si elles sont plates, alors je vous l'ai déjà dit, faites-le avec une feuille de papier, regardez, vous dessinez votre main sur une feuille de papier, vous découpez la feuille de papier, vous verrez que là, une main plate, vous la mettez devant un miroir, elle est identique à son image. Parfaitement superposable. Au sens de Euclide, hein, on dit. Hein, superposition des triangles. Bon. Donc vous voyez, la dimension 3, c'est quelque chose qui vient et qui produit quoi? Qui produit en plus, alors, une équivoque, une hypermodalité, le phallus, la vérité, ça produit une hypermodalité géométrique. C'est-à-dire que même en géométrie, même en mathématiques, il y a de l'impossible, ça on pourrait s'en douter si on était mathématicien, les mathématiciens le savent un peu, mais parce que c'est grâce à ça qu'on peut démontrer les choses, quand on vient buter contre l'impossible, et quand, si on démontre, c'est comme la balle au mur, vous jetez la balle contre le mur, elle revient grâce au mur. C'est ça le réel, l'impossible à écrire. Non, ça produit des démonstrations. Mais là, vous avez quelque chose qui s'appelle l'équivoque impossible à dire. Vous voyez? Parce que je vous ai dit, ces deux doigts-là, vous voyez, ces deux doigts-là, ils sont opposés, les autres sont superposables. Vous voyez? Mais c'est aussi vrai si je change comme ça, si je mets mes doigts comme ça, les deux autres deviennent superposables, mais celui-là qui n'était pas, il est superposable avec celui-là. Maintenant, c'est mes pouces qui sont opposés. Hein? Et puis, si je les mets comme ça, mes doigts, si je les mets comme ça, c'est ces deux-là qui sont opposés, puis les autres sont superposables. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a une dimension. Qu'est-ce qu'inverse le miroir? Voilà l'aliénation que nous subissons tous au miroir, qui fait que le narcissisme, c'est à la fois une école d'apprentissage de la lecture, et en même temps c'est difficile, on est aliéné à ça. Depuis même le trauma, c'est l'aliénation qui court. Il y a quelque chose qui manque. Hein, qu'est-ce qui manque? C'est que je ne peux pas dire qu'est-ce qui est inversé entre mes deux doigts, entre mes deux mains, ma main droite et ma main gauche. Parce qu'il y a une dimension qui est inversée sur les trois. Mais c'est celle-là, ou bien c'est celle-là, ou bien c'est celle-là. Vous voyez, c'est comme dans le nœud borroméen. Dans le nœud borroméen, vous avez trois ronds. Hein. Vous en tirez un, les deux autres sont libres. Mais vous ne pouvez pas dire quel est le rond parmi les trois qui tient les deux, qui tient le nœud. Qu'est-ce qui fait le nœud? On ne sait pas. C'est comme la symétrie miroir. Dans la symétrie miroir, vous avez la même, c'est pourtant métrique, euclidien, la symétrie miroir, et pourtant vous avez cette propriété topologique qu'on retrouve dans le nœud borroméen. Hein? C'est-à-dire que vous trouvez quelque chose qui s'appelle la fonction paternelle. C'est pas le père imaginaire, le père réel, le père symbolique. Hein? Ça s'appelle la fonction paternelle, ça s'appelle la fonction du signifiant du nom du père. C'est-à-dire, le nom du père, là, quand il a tout ça dans la religion chrétienne, catholique, mais qu'est-ce que c'est que ce signifiant du nom du père? Qu'est-ce que c'est que cette fonction paternelle? C'est cette façon qu'a le père de pacifier les relations du désir et de la loi. Il y a de l'impossible, mon petit gars. De toute façon, moi, je m'en occupe de ta mère. C'est ça le truc, vous voyez, ça va se pacifier. Mais de toute façon, c'est impossible. On ne peut pas, il faut le faire, on ne peut pas l'apprendre par cœur. Il faut le recommencer à chaque fois. Au lieu de cette folle avec son désir insatisfait, ben on va s'en occuper. Non, mais c'est comme ça que ça s'appelle le père, c'est un type, c'est un brave type. Il ne doit pas être un champion, il doit au contraire justement pas être un champion. Il doit être exceptionnel pour ses enfants, mais banal pour tout le monde. S'il est exceptionnel, ça fait des pères Schreiber, vous voyez, qui fait que le fils, ça ne va pas terrible. Bon, s'il est exceptionnel, c'est très emmerdant pour les enfants. S'il est que banal, alors ça, on se passe son temps à dire que finalement, il est banal, parce qu'on confond, vous voyez, même Freud n'arrive pas à le séparer du phallus. Donc tout le monde se crache sur le père parce qu'il est banal. Ce connard, ça, c'est le père réel, vous savez, il regarde la télé le dimanche, il regarde les matchs de foot, il boit de la bière, il se prend les pieds dans le tapis, ça, c'est très bien d'en avoir un comme ça, à la maison. Ça évite, ça compense un peu le père idéal qui, lui, est inaccessible, il a de la jouissance, des droits et des moyens, dit Lacan, écrit Lacan. Donc vous avez comme ça cette notion que le père imaginaire c'est l'idéal, le père réel c'est l'abruti qu'on a tous, et qu'on est tous, et puis le père symbolique, c'est le père mort. Et Lacan nous dit le père mort c'est le phallus, c'est lui le phallus. Mais c'est pas le nom du père. Le phallus, il nous dit pourquoi c'est le phallus, parce qu'au moment où il meurt, le père, la mère, elle devient veuve. Donc, qu'est-ce qui lui manque à ce moment-là? Ben, un mari. Et comme le phallus, c'est le signifiant du désir, c'est le signifiant qu'elle souhaite, qu'il lui manque, et bien, le père, là, c'est quand il est mort qu'il est le plus identifiable au phallus. Et pour Freud, le père, c'est le père mort, c'est le phallus, c'est le père de la horde primitive, là. Cette espèce d'histoire de père orang-outan, justement. Celui qui fait le brame des cerfs, qui domine toute la troupe, le mâle dominant, vous voyez, ça c'est le père, ça c'est le, c'est complètement, c'est quand il est mort qu'il devient véritablement symbolique. Seulement le problème, c'est que c'est pas encore ça le nom du père, la fonction paternelle la plus importante. La fonction paternelle, c'est Lacan qui l'introduit, parce que lui il a trouvé ça dans Goethe. Le premier qui en parle, c'est Goethe. Peut-être que d'autres en ont parlé avant, mais le premier à ma connaissance que j'ai noté, c'est Goethe. Goethe, il en parle dans un passage que Gide a lu. Et on sait que ça a déjà frappé beaucoup Gide. Il a lu ça, Gide, quand il est allé voyager en Allemagne. Il n'arrivait pas à finir le roman de la jeunesse, la série des romans de la jeunesse, la jeunesse de Gide. Lacan, il a intitulé son texte comme ça, « La jeunesse de Gide ». Et donc, Jean Delay raconte ça très très bien. Il n'arrivait pas à finir le cycle de la jeunesse, tous ces symboles, tous ces portraits, tous ces personnages. Il venait d'aller chez Mallarmé, avec Valérie. Il cherchait, il n'arrivait pas. Bon, c'est comme dans une analyse, on traîne les pieds, on s'en piquille. Bon. Mais il faut continuer. Et qu'est-ce qui se passe ? Il part en Allemagne avec Goethe sous le bras. Et qu'est-ce qu'il lit là ? Il lit ses phrases. Il dit, Goethe, il écrit, bon, dans la vie, vous savez, vous rencontrez des gens qui sont extraordinaires. C'est formidable. Les gens extraordinaires, c'est très intéressant. Vous pouvez rencontrer des gens extraordinaires. Vous allez voir, c'est passionnant. Bon. Mais il n'y en a pas beaucoup. Et puis, dans la vie, vous rencontrez aussi des gens banals. Ça, c'est une multitude. Il y en a plein. C'est pas marrant. C'est pas spécialement rigolo. On peut s'ennuyer, tout ça. Voilà. Mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est d'être exceptionnellement banal. Mais c'est très difficile et c'est très dangereux, ajoute Goethe. Bon, pourquoi c'est dangereux? Parce que quand vous êtes exceptionnel, vous pouvez payer les gardes du corps. Quand vous êtes banal, vous n'avez pas besoin, on va pas vous casser la gueule tout de suite. Bon. Ça peut arriver quand même, mais enfin bon, le point il est que, attention, non, mais, quand vous êtes exceptionnellement banal, vous avez que des ennemis et pas de garde du corps, d'accord? Donc là, vous voyez, moi j'en sais quelque chose, il s'acharne, parce que moi je prétends être absolument banal et exceptionnel. Ça veut dire, moi je suis un père de la psychanalyse, vous voyez, je m'efforce de faire ça. Je n'ai pas fait ce coup-là à mes enfants, parce que je ne veux pas les rendre malades. Mais ils se portent quand même bien, non, sur le rêve. Mais le point, c'est que je pense que ce qu'il faut dans la psychanalyse, c'est justement arrêter de délirer comme ça sur les personnages exceptionnels. Freud et Lacan est exceptionnel, vous voyez. Et c'est ça qui est un problème pour la psychanalyse. Il faut maintenant qu'on arrive à faire la psychanalyse avec des gens exceptionnellement et exceptionnels, mais banals. Et banals et exceptionnels. Être analysant, c'est exceptionnel, puisque ça, c'est chacun fait la sienne. Vous voyez ? Mais ça doit devenir banal, puisque si on veut que... Mais pas banal au sens de psychothérapie, hein, pas au sens de l'aide sociale. Hein, les pauvres docteurs là, qui sont tous engagés dans des services sociaux, il faut arrêter ça. Ça, on fait beaucoup de tort aux gens, hein, s'occuper trop d'eux. Hein. Bon. Non, il faut que ce soit banal, ce soit ouvert à tout le monde. C'est ce que dit Lacan. Il dit, le père, ça doit être... N'importe qui doit être père, vous voyez ? Vous voyez, côté psychotique, l'école des parents. Il y a des gens qui ont fait une association qui s'appelle l'école des parents. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est complètement délirant. C'est une honte. Moi, quand j'étais prof, j'ai connu ça. Il y a des gens qui allaient à l'école des parents, ils voulaient. Il y a une élève de Dolto qui a écrit un livre qui s'appelait... C'était un manuel pour les enfants qui ont des parents difficiles. Vous voyez, c'est une bonne idée. Mais je pense que c'est absolument nécessaire d'écrire des manuels pour les enfants qui ont des parents difficiles. Et les parents qui pensent qu'il faudrait qu'ils soient, vous voyez, c'est comme l'eugénisme de ce crétin de Caporal, là, que les enfants qui se suicident, les adolescents qui se suicident ou ceux qui sont drogués, tout ça serait génétique. Vous voyez, bon. Non, mais c'est quand même effrayant. Bon, pour être parent, n'importe qui doit être parent, doit pouvoir être parent. Il n'y a aucune raison de créer cette, puisque de toute façon ce sera une catastrophe l'éducation qu'on va donner à leurs enfants. Alors de toute façon, il faut mieux qu'ils soient surtout pas formés pour ça. Bon, mais par contre, pour les mômes, pour leurs mômes, ils doivent être exceptionnels. Bon. Et Lacan il dit ça comme ça, n'importe qui doit pouvoir être pas père. Ça doit. Bon, mais ce qu'il dit ne doit pas être cousu de fil blanc. Jolie formule. Ce qu'il dit ne doit pas être cousu de fil blanc. C'est-à-dire ce qu'il dit ne doit pas courir les rues à un autre moment dans le séminaire. Il dit ça comme ça. Hein? Donc vous voyez, n'importe qui peut être père, mais alors qu'on ne vienne pas nous faire des trucs hein, sur la castration chimique ou autre, on va empêcher certains de se reproduire, des trucs comme ça. N'importe qui peut être père, c'est ça dont il faut parler sérieusement. Hein? Mais vis-à-vis des enfants, il faut qu'ils soient exceptionnels. Et bien comment ça vient le nom du père aux enfants? Ça vient par le dire de la mère. Bon, des voisins aussi, ça peut venir aussi des voisins. Mais le nom du père, c'est quoi? C'est ces signifiants qui sont banals pour tout le monde s'en fout, mais moi, j'aime le camembert. Vous voyez, le camembert, c'est un nom du père en France. Le camembert, ou le Pont-l'Évêque, c'est mon préféré, ou le fromage, le queso, le vin rouge, voilà. Vous voyez, en Argentine, ils ont le dulce de leche, c'est le signifiant du nom du père des Argentins. Regardez, dans chaque famille, il y a des noms du père, sinon les enfants sont psychotiques. Il y a des noms du père. C'est quelque chose, la manière de se laver, la manière de se laver les dents, la manière de se coucher, la manière... Je vous dis, pour savoir où se glisse le nom du père, lisez le manuel d'ethnologie de Marcel Mauss. Vous avez là la nomenclature de toutes les actions, de tous les actes de civilisation, de toutes les techniques de civilisation, où... La mère va pouvoir apprendre au môme comment faire d'une manière comme ça, plus ou moins ritualisée, mais ça va devenir des choses qui deviennent, pour la vie du corps, ça devient quelque chose d'indispensable. Vous voyez ? Bon. Et si on n'en a pas, ben on est extrêmement emmerdé, parce qu'il faut... Bon, on peut très bien ne pas en avoir, mais à ce moment-là, il faut réinventer tout ça, pour son propre compte. Ça veut dire, c'est possible, moi je pense que dans une analyse, il faut faire ça, il faut réviser même ces noms du père. On n'est pas obligé de maintenir les mêmes rites. J'ai même écrit un article sur la phobie, un long article sur la phobie. Comment ?
Territoire.
Le territoire de la phobie, pour dire combien la vie, justement, extrêmement ritualisée, quand le nom du père est un peu affaibli, justement, sous son cap, quand ça devient des rites, hein, comme ou des trucs instinctifs ou animaux, c'est plus de l'esthétique. Et justement, ça devient la terreur. Hein. Les ritualisations familiales. Mais par contre, ça c'est chez les névrosés que ça se passe comme ça. Hein, parce qu'ils ont très peur de la psychose, alors du coup, hop, on bétonne, faut manger à telle heure, on mange tous les jours de la semaine, le vendredi, le jeudi, le mercredi, la même chose. On l'affiche sur le frigidaire même. Bon. Enfin, j'en passe et les meilleurs, j'en ai raconté un paquet de tartines dans un article qui s'appelle. C'est dans le site dont je vous parlais tout à l'heure, ça s'appelle Le territoire de la phobie.
Hein. Sous-titré De la névrose comme réalisation de la théorie des graphes.
Oui, mais il y a deux graphes dedans, hein. Vous avez vu, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a que deux. Parce que Lacan, il explique justement que le névrosé, il n'aime pas les arbres, il n'aime que les cycles. Parce que les cycles, ça tourne tout le temps en rond, ça c'est de la phobie. Alors que les arbres, c'est il faut aller et revenir. C'est pas la même chose, c'est pas la même structure. C'est dans le séminaire les relations d'objets, hein, ça. C'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Non, j'aurais voulu donner plus de développement au graphe, seulement le problème c'est que j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps parce que les éditeurs m'ont réclamé ça, c'était pour une revue de psychanalyse avec les enfants à Buenos Aires. Bon, donc, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que Freud et Lacan, donc, c'est bien les mathématiques dans la psychanalyse, c'est pas une lubie de Lacan, c'est que si Freud a écrit, c'est vrai que ça paraît bizarre que ce soit Lacan qui insiste tant sur les mathématiques, mais c'est vrai que Freud, lui, il a écrit, mais dans la langue, pas jusque-là. Mais j'insiste sur le fait que quand, vous voyez, il apprend par Brentano dans les années 20, au début des années 20, que les logiciens ont inventé la négation, c'est-à-dire ça, la fonction propositionnelle, c'est-à-dire ça, et puis le compteur existentiel et le compteur universel, il écrit sur l'inconscient et la négation, le principe du plaisir et la fonction propositionnelle, le prédicat, le concept, hein, et ça c'est le processus primaire et ça c'est le processus secondaire, l'existence. Hein. Donc il n'emploie pas les trois caractères, mais lui, Freud, il a été frappé chez Brentano qu'on introduisait des nouvelles lettres, hein, scientifiques, je ne sais pas si c'est scientifique, ce n'est pas de la science expérimentale toujours, hein. C'est pas du laboratoire, c'est des mathématiques, bien sûr. Les mathématiques, c'est ce qui sert aux scientifiques, mais ça va peut-être au-delà de la science. C'est du savoir, voilà. Ça s'invente. Hein. Et Freud, quand il a vu ça, tout de suite, il s'en est emparé pour écrire son texte sur la négation. Donc Lacan, il est dans le fil de cette position de Freud, qui est parler plus que Freud. Pendant 27 ans, il parle. Et il fait une psychanalyse parlée. Et du côté de l'écriture, il fait plus de mathématiques parce qu'il s'est rendu compte que l'écriture, c'était pas seulement la langue, que le langage, c'est pas seulement la langue, que le langage. Voilà, pour finir, je vais vous dire, regardez, prenez un exemple comme la musique, c'est aussi très intéressant. La musique, il y a des gens qui écrivent, il y a des gens qui jouent d'un instrument, il y a des musiques écrites. Mais vous avez un texte de Adorno qui se pose la question, est-ce que la musique est un langage ? Moi, je pense que ce n'est pas un langage. Il n'y a pas des langages, comme il y a des langues. C'est du langage. La musique, la peinture, tout ça, c'est du langage. C'est du langage, mais c'est plus du côté de la parole, justement. Et ça devient écrit chez nous. Enfin, dans les grandes civilisations de l'écriture, c'est-à-dire la Chine et l'Europe méditerranéenne, c'est-à-dire les religions. Hein. Ils sont en train de se battre autour de Jérusalem, c'est un peu emmerdant, mais... Là, les catholiques sont en train d'être ramenés dans le jeu. Ça va peut-être changer un peu la donne, le fait qu'on attaque les chrétiens maintenant. Parce qu'ils étaient là, ils s'étaient bien planqués dans un coin, et puis laisser les Palestiniens et les Juifs se taper dessus. Bon, donc le problème, c'est qu'il faudrait quand même qu'on s'aperçoive que c'est sûrement parce que justement, on lit pas Freud, on ne pratique pas l'analyse, on ne se pose pas la question de devenir un analysant banal et exceptionnel. C'est pour ça que, à mon avis, ça se passe mal dans le champ politique. Bon. Alors, ça c'est... Hein, je finis comme ça. Ça, voyez-vous, vous pouvez le transformer dans le schéma R, regardez. Si vous déformez ça, vous avez ici les maths dans la réalité psychique et la littérature, et puis là, vous avez la parole privée, la parole privée. Et là, vous avez la parole publique. Et puis, Lacan, il insiste bien qu'il s'agit de traverser la zone de la réalité psychique qui est là. Donc ça, c'est une zone dans le schéma R d'écriture, et ça, ce sont deux zones de parole. Ce sont deux paroles qui sont opposées l'une à l'autre sur la bande de Möbius. Hein, c'est la partie orientable. Donc vous pouvez déformer ce schéma en schéma R. Et ben ça vous donne une autre lecture du schéma R. Bon, là-dessus, j'arrête. Non, mais on verra la semaine prochaine. Et je vais essayer de faire des calculs hein, à la main. Bon, allons-y.
Je vous envoie des textes à votre compte.